got money, I'ma bring it, you know we gon' live alright. No, I did a couple things, I was living off shame, but shit, I made it right. Went and caught a couple chains, I'm standing in my lane, I'm drippin' shit day tonight. Drip shit day tonight, I drip shit day tonight. We in that scene, I pop champagne, and ain't no man, I'm fine.
Radio G 101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
On the stage, please. They're all waiting for you.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
Yo la Bande Geek Mafia, salut à toutes et tous. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir dans votre émission Infoculture Bande Geek Mafia sur Radio G 101.5 FM. Avant toute chose, l'équipe de Bande Geek Mafia a encore une fois le plaisir de vous souhaiter une très bonne année 2021. Une année où nous tiendrons bon face à la pandémie et face aux difficultés. Une année de culture où nous résisterons à ses côtés pour la maintenir vivante et libre. Comme chaque semaine, nous vous embarquons dans notre univers de cinéma avec Anaïs et Olivier, de séries TV avec Olivier le même, de jeux vidéo, de musique, de BD, surtout de BD avec Anaïs et Seb, et de livres, mais également un conte philosophique par Pablo, un conte death metal qui risque de vous accrocher légèrement les oreilles, mais rassurez-vous, ça ne durera pas longtemps. Bref, tout ce que nous aimons. Dans la musique, de l'éclectisme comme toujours, mais une coloration soul funk aujourd'hui. Tout de suite, Amy Winehouse, A Song For You, dans Bande Geek Mafia, sur Radio G 101.5 FM, et oui, la radio qui fait le point.
I've been so many places, gliding down. I saw a lot of signs, I'm raised on bed. I'm at the life, my life is staying. With 10,000 people watching, I'm living alone. And I'm feeling so lucky. I know y'all and me, it's a man, it's a lot of bad. We'll be right back.
house on full. Yeah.
Donny Hathaway, you know what I see Donny Hathaway as, like, on Michael Arlen Anderson, like on Marvin Gaye, like, great, but Donny Hathaway, like, he can't contain himself, he has something in him.
Les bandes geeks. Ce soir, j'avais envie de vous parler de l'actu, mais de l'actualité vue par la bande dessinée. En effet, les reportages en bande dessinée, les bandes dessinées relatives à l'actualité, fleurissent ces dernières années. Ce mode de traitement de l'information par l'image a effectivement le vent en poupe. Il permet d'aborder des sujets forts de façon différente de la photographie ou encore de l'écrit. Décrire l'actualité en dessin n'est pas un phénomène nouveau. En effet, les dessinateurs de presse illustrent l'actualité dans les journaux et magazines depuis des siècles. Mais un cran dans le traitement de l'information par le dessin a été franchi avec l'avènement de la BD reportage. Celle-ci consiste pour un reporter à se mettre en scène en case et en bulle. Il parle de lui à la première personne, il témoigne de ce qu'il a vécu sur le terrain, il nous donne ainsi à voir son interprétation des faits. Ce que la journaliste Florence Omna nomme « subjectivité assumée ». Ces BD reportages permettent d'appréhender ce que le métier de grand reporter. La bande dessinée est en outre le seul média qui permet de montrer des lieux, des personnes, des scènes, même si ceux-ci n'ont été ni photographiés ni filmés. Pour finir, le dessin et le texte ne sont pas les seuls à donner des indications au lecteur. Compte également les onomatopées, la forme des bulles, ou encore la taille des différents textes. On a également des magazines d'information intégralement conçus en BD qui ont vu le jour, comme Topo ou la revue dessinée.
Topo. Topo, c'est une revue qui paraît tous les 2 mois, qui explique aux ados le monde en bande dessinée. Alors, comment ça marche ? On demande à des journalistes, à des dessinateurs de faire de grands reportages, des enquêtes et des documentaires d'actualité. Et aussi des chroniques sur le cinéma, les jeux vidéo, le futur, le sport, la littérature, les sciences et les mythes fondateurs. Parce que le vocabulaire de Topo, c'est le dessin. Dessin de presse, illustration et bande dessinée. Parce que lire du dessin, ça s'apprend.
Et si vous voulez quelques titres, quelques grands classiques de la BD reportage dans votre bibliothèque, je vous conseille tout d'abord l'auteur Guy Delisle, qui a publié de nombreuses chroniques, comme les chroniques de Jérusalem, qui relate l'année passée à Jérusalem par l'auteur avec sa famille. La célèbre BD Le photographe d'Emmanuel Guibert, Didier Lefebvre et Frédéric Lemercier, qui a été édité chez Dupuis, et qui retrace le périple du photographe Didier Lefebvre, qui partit en 1986 en Afghanistan avec Médecins Sans Frontières, en pleine guerre contre l'Union soviétique. Dernièrement, on a aussi Marion Montaigne qui s'est mis au reportage avec Dans la combi de Thomas Pesquet, édité chez Dargaud, qui fait le portrait du spationaute Thomas Pesquet sur le chemin parcouru jusqu'à son départ pour l'espace, puis son retour sur la Terre. On pourrait en citer bien d'autres. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à tester la lecture, à acheter les numéros de la revue dessinée et de Topo, qui proposent vraiment des reportages très très intéressants en BD, et c'est une manière ludique de s'informer.
Give me two, vibes and you like this.
Mauvaise nouvelle, je l'entends des fausses nouvelles, mais c'est. Mauvaise nouvelle, je l'entends des fausses nouvelles.
Give me sound, give me vibes.
A chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate, j'suis devenu mythomaniaque sur le côté.
Fake news,
avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, j'suis devenu paranoïaque sur le côté.
Fake news,
le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup que ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi, la rumeur s'emballe, et tous les mots deviennent des balles. Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces
fake news,
wow. Pourquoi fait-il chaud? Pur de rester sceptique quand on bronze l'hiver à Oslo. We don't know, y a-t-il un complot? Tout scientifique quand on lit les réseaux sociaux. Wow. Même c'est des salafos, mon fil est la grippe, mais je crois que je deviens trop parano. We don't know, que ça soit vrai ou faux. Tout devient la vérité quand tout le monde reprend les mêmes mots. Tell me now, a-t-on touché la lune qui détient les fortunes et qui manie la plume pour nous le raconter? Qui devrait faire la une qui détient les tribunes, qui profite des lacunes pour tout réinventer? Et c'est par naïveté qu'on s'emballe sans détail, on cabale sans même vérifier. Et sans se questionner, ce que l'on monte se démonte à l'encontre de la vérité. Chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate, je suis devenu mythomaniaque sur le coup des
fake news,
avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, je suis devenu paranoïaque sur le coup des
fake news,
le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup, ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi, la rumeur s'emballe, et tous les mots deviennent des balles. Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces
fake news.
Tous les événements sont mis en scène,
comme une série télé,
et tous les délires deviennent réels,
et tout est emmêlé.
Souvent je préfère croire que les réponses viennent du ciel, et j'ai goûté la pilule offerte,
si j'ai tout recraché.
On a vu des lézards prendre le pouvoir, on a vu des rockstars morts ressuscités. Chacun prend sa part et écrit l'histoire, et c'est l'esprit critique qui vient de s'effacer. J'ai des voix dans la tête, comme à chaque fois je répète ce que j'ai lu, ce qu'on me dit dans mon oreillette. Maintenant je les rejette et check tout ce qui m'inquiète. Ce que j'ai vu, ce que je lis, vise mon intellect. La vérité change dans l'air du temps, suis le courant le plus dominant. Tu vois l'info partout, mais pourtant douter de tout, c'est tout ce qu'on apprend. A chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate, je suis devenu mythomaniaque sur le coup des
fake news.
Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, je suis devenu paranoïaque sur le coup des
fake news.
Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup que ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi, la rumeur s'emballe, et tous les mots deviennent des balles. Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces
fake news.
A chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate, je suis devenu mythomaniaque sur le coup des
fake news.
Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, tous devenus paranoïaques sur le coup des
fake news.
Dès le préau, ce qu'on échange, plus c'est gros, plus t'es quoi. Le vrai, le faux se mélange, puis je me dis pourquoi pas. Y'en a certains que ça arrange, qu'on gobe n'importe quoi. Laisse-moi savoir pour qui c'est good ou c'est bad news. Good news, bad news. Give me one, give me two, give me vibes and you like this. Good news, bad news, fake news.
Mauvaise nouvelle, j'entends des fausses nouvelles, mais c'est.
Give me sound. Radio
G 101.5 FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous propose une chronique bande dessinée. Pour commencer cette chronique, je vais vous parler de l'Arabe du futur, et en particulier du dernier tome, l'Arabe du futur 5. L'Arabe du futur est une bande dessinée de Riyad Satouf, dans laquelle il raconte son enfance et son adolescence. Dans le premier tome, qui couvre les années 1978 à 1984, le petit Riyad était ballotté de sa naissance à ses 6 ans entre la Libye de Kadhafi, la Bretagne de ses grands-parents et la Syrie de Hafez el-Assad. Dans le deuxième tome, en 84-85, il racontait sa première année d'école en Syrie. Dans le troisième tome, 85-87, était celui de sa circoncision. Et le quatrième tome, l'avant-dernier, qui couvre les années 87-92, révèle le coup d'état de son père. L'Arabe du futur 5 est sorti juste avant Noël. Ce livre raconte l'histoire vraie de l'adolescent qui est devenu Riyad Satouf, plus du tout blond, comme au moment de son enfance, mais surtout l'histoire de sa famille franco-syrienne et d'un fantôme. Riyad a 14 ans, ses cheveux blonds ont disparu et il a un physique difficile. À la fin du tome précédent, son père s'est enfui. Alors je ne vous raconte pas tout dans le détail, mais il s'est enfui en Syrie. Et tandis que sa mère utilise tous les recours légaux, Riyad poursuit son exploration de ses tâches pénibles et l'adolescence, et se réfugie dans le paranormal. Il devient copain avec les exclus de la classe, ils lui font lire Lovecraft, et il rencontre Anaïk, la femme de sa vie. Grâce au dessin, il arrive à se faire un peu respecter, mais il a du mal à trouver sa place partagé entre l'envie d'être comme les autres et sa mauvaise conscience d'être venu de Syrie, qui se rappelle à lui à travers les voix de son père et de ses cousins. Ce livre, Riyad Satouf raconte son secret. Il continue aussi de nous épater avec l'Arabe du futur 5, parce que ce tome 5, il est savoureux et il franchit un cap aussi dans l'évolution du personnage, la gravité, etc., dans la jeunesse de Riyad Satouf. Moi, je vous conseille vraiment la lecture de tous les tomes de l'Arabe du futur et de toutes les bandes dessinées de Riyad Satouf, hein, et en particulier aussi Pascal Brutal, qui sont vraiment très, très, très sympas. Retour au collège aussi, enfin, il y en a énormément. Donc voilà, l'Arabe du futur 5, c'est sorti récemment et c'est plus que conseillé par Bande Geek Mafia. Deuxième bande dessinée ce soir, Moderne Olympia de Catherine Meurice. Un récit écrit et dessiné donc par Catherine Meurice, une coédition Futuropolis Musée d'Orsay. Alors de casting en figuration, Olympia court les plateaux et rêve d'un premier rôle romantique, digne de Roméo et Juliette. Elle se verrait bien en haut de l'affiche, comme Vénus, la star des studios d'Orsay. Mais Olympia n'est pas de bonne famille. Elle appartient au clan des refusés, pour qui le chemin du succès est semé d'embûches. Et son amour pour un officiel du clan rival ne simplifie pas les choses. Dans Moderne Olympia, les œuvres d'Orsay s'affrontent à un rythme effréné et esquissent des pas de danse inspirés des meilleures comédies musicales américaines. West Side Story au musée d'Orsay, c'est possible sous la plume de Catherine Meurice. Et au musée d'Orsay, où de célèbres toiles ont pris vie, les deux clans s'affrontent, les officiels, les refusés, et au cœur du clan Philly, on trouve Olympia, une jeune actrice moderne. Elle ne veut pas se contenter de rôle de figuration dans ce musée qui est devenu un immense studio de cinéma. Et surtout, 50 œuvres du musée d'Orsay sont citées dans cette bande dessinée. Si vous aimez les œuvres du musée d'Orsay, les impressionnistes, Manet, le tableau Olympia ou Catherine Meurice, n'hésitez pas à vous procurer cette bande dessinée. Troisième et dernière bande dessinée ce soir, je voudrais vous parler de Malgré tout, de Jordi Lafèbre. Malgré tout, c'est l'histoire d'un amour à rebours, une passion platonique mais éternelle entre deux êtres. D'un côté, il y a Anna, sexagénaire charismatique, ancienne mère, tout juste retraitée, mariée et maman. Une battante au grand cœur qui impose le respect. De l'autre, il y a Zeno, célibataire endurci, libraire proche de la retraite et doctorant en physique qui aura mis 40 ans pour terminer sa thèse. Un esprit libre et voyageur, aussi séduisant que mystérieux. Au fil des années, ils ont tissé ensemble un amour impossible et intarissable. Tout en égrenant les excuses qui ont empêché qu'elles ne prennent forme, on remonte le temps de cette romance et de ses méandres, jusqu'à la source. Avec Malgré tout, Jordi Lafèbre, qui a créé Les Beaux Étés, La Mondaine, Lydie, nous offre, avec toute la poésie et la tendresse qui le caractérisent, son premier album en tant qu'auteur complet. Un puzzle amoureux complexe qu'il recompose savamment au travers de scènes distinctes et pourtant indissociables les unes des autres. Jordi Lafèbre signe l'un des meilleurs albums de l'année, une lecture douce qui permet de s'évader. Amour, mélancolie, humour, passion, tous les ingrédients nécessaires sont réunis et savamment dosés pour faire vibrer le cœur des lecteurs. C'est un coup de cœur, une merveilleuse histoire, une plongée dans le monde des subtilités. Je récapitule les trois bandes dessinées présentées ce soir. L'Arabe du futur 5 de Riyad Satouf aux éditions Alari, Moderne Olympia de Catherine Meurice aux éditions Futuropolis et Malgré tout de Jordi Lafèbre aux éditions Dargaud. A très bientôt dans Bande Geek Mafia pour une nouvelle chronique BD ou cinéma.
Yo, merci Sabé Anaïs pour ces belles chroniques BD. Tout de suite, Sharon Jones and the Dap Kings 100 Nights sur Radio G 101.5 FM, la radio qui fait le point, bien sûr.
You know a man can bet upon of a saint.
On the stage, please. They're all waiting for you.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. For me.
Yo les bandes geeks, comment ça va bien aujourd'hui? Pour nous aider à traverser ces temps sombres, si ça peut aider modestement, avec mes camarades de Bandes Geeks Mafia sur Radio G 101.5 ou www.radio-g.fr, un petit moment philo, comme un voyage cérébral. Comme un voyage cérébral. Yalla! Terrible rôde à travers les plaines de l'Inde. On la rencontre simultanément au nord et au sud, et à la fois dans les lieux saints et dans les marchés. Les femmes tressaillent sur son passage, les jeunes hommes dilatent les narines, s'avancent sur le seuil des portes, et les petits enfants qui vagissent savent déjà son nom. Kali la Noire est horrible et belle. Sa taille est si fine que les poètes qui la chantent la comparent au bananier. Elle a des épaules rondes, comme le lever de la lune d'automne. Ses seins gonflés, comme des bourgeons prêts d'éclore. Ses cuisses ondoient, comme la trompe de l'éléphanteau nouveau-né. Ses pieds dansants sont comme de jeunes pousses. Sa bouche est chaude comme la vie, ses yeux profonds comme la mort. Elles se mirent tour à tour, dans le bronze de la nuit, dans l'argent de l'aurore, dans le cuivre du crépuscule. Et, dans l'or du midi, elle se contemple. Mais ses lèvres n'ont jamais souri. Un chapelet d'ossements s'enroule autour de son cou mince. Et dans sa figure plus claire que le reste de son corps, ses vastes yeux sont purs et tristes. Le visage de Kali, éternellement mouillé de larmes, est pâle et couvert de rosée comme la face inquiète du matin. Kali est abjecte. Elle a perdu sa caste divine à force de se livrer aux parias, aux condamnés, et son visage, baisé par les lépreux, s'est recouvert d'une croûte d'astre. Elle s'étend contre la poitrine galeuse des chameliers venus du nord, qui ne se lavent jamais à cause des grands froids. Elle couche sur des lits de vermine avec des mendiants aveugles.
Elle passe de l'embrassement des brahmanes à celui des misérables, race infecte, souillure de la lumière qu'on charge de baigner les cadavres. Et Kali, étalée dans l'ombre pyramidale des bûchers, s'abandonne sur les cendres tièdes. Elle aime ainsi les bateliers qui sont rudes et forts. Elle accepte jusqu'aux noirs qui servent dans les bazars, plus battus que des bêtes de somme. Elle frotte sa tête contre les épaules écorchées par le va-et-vient des fardeaux, triste comme une fiévreuse qui ne parviendrait pas à se procurer d'eau fraîche. Elle va de village en village, de carrefour en carrefour, à la recherche des mêmes délices mornes. Ses petits pieds dansent frénétiquement sous leurs anneaux qui tintent, mais ses yeux n'arrêtent pas de verser des larmes. Sa bouche amère ne donne pas de baisers. Ses cils ne caressent pas les joues de ceux qui l'étreignent, et son visage reste éternellement pâle comme une lune immaculée. Jadis, Kali, nénuphar de la perfection, trônait au ciel d'Indra, comme à l'intérieur d'un saphir. Les diamants du matin scintillaient dans son regard et l'univers se contractait ou se dilatait selon les battements de son cœur. Mais Kali, parfaite comme une fleur, ignorait sa perfection et pure comme le jour, elle ne connaissait pas sa pureté. Les dieux jaloux guettèrent Kali un soir d'éclipse dans un cône d'ombre au coin d'une planète complice. Elle fut décapitée par la foudre. Au lieu du sang, un flot de lumière jaillit de sa nuque tranchée. Son cadavre, en deux tronçons, jeté au gouffre par les génies, roula jusqu'au fond des enfers où rampent et sanglotent ceux qui n'ont pas aperçu ou ont refusé la lumière divine. Un vent froid souffla, condensa la clarté qui se mit à tomber du ciel. Une couche blanche s'amassa au sommet des montagnes, sous des espaces étoilés, où il commençait à faire nuit. Les dieux monstres, les dieux bétail, les dieux aux multiples bras et aux multiples jambes, pareils à des roues qui tournent, fuyaient à travers les ténèbres, aveuglés par leur auréole, et les immortels hagards regrettèrent leurs crimes. Les dieux contrits descendirent le long du toit du monde, dans l'abîme plein de fumée, où rampent ceux qui existent. Ils franchirent les neuf purgatoires. Ils passèrent devant des cachots de boue et de glace où des fantômes rongés par le remords se repentent des fautes qu'ils ont commises, et devant des prisons de flammes où d'autres morts, tourmentés d'une convoitise vaine, pleurent les fautes qu'ils ne commirent pas. Les dieux s'étonnaient de trouver chez les hommes cette imagination infinie du mal, ses ressources et ses angoisses innombrables du plaisir et du péché. Au fond du charnier, dans un marécage, la tête de Kali ondoyait comme un lotus, et ses longs cheveux noirs nageaient autour d'elle comme des racines flottantes. Ils recueillirent pieusement cette belle tête exsangue et se mirent en quête du corps qu'il avait porté. Un cadavre décapité gisait sur la berge. Ils le prirent, posèrent le chef de Kali sur ses épaules et ranimèrent la déesse. Le corps était celui d'une prostituée mise à mort pour avoir essayé de troubler les méditations d'un jeune brahmane. Privé de sang, ce pâle cadavre paraissait pur. La déesse et la courtisane avaient sur la cuisse gauche le même grain de beauté. Kali ne retourna plus, nénuphar de la perfection trôné au ciel d'Indra. Le corps auquel sa tête divine était jointe avait la nostalgie des quartiers malfamés, des caresses interdites, des chambres où les prostituées, méditant de secrètes débauches, guettent l'arrivée des clients à travers des persiennes vertes. Elle devint la séductrice des enfants, l'initiatrice des vieillards, la maîtresse despotique des jeunes hommes, et les femmes de la ville, négligées par leurs époux et se considérant comme des veuves, comparaient le corps de Kali aux flammes du bûcher. Elle fut immonde comme le rat des égouts et détestée comme la belette des champs. Elle vola les cœurs comme un lambeau d'entrailles aux étals des trépieds. Les fortunes liquéfiées poissaient ses mains comme des rayons de miel. Sans repos, de Benares à Capi Lavistu, de Bangalore à Srinagar, le corps de Kali entraînait avec lui la tête déshonorée de la déesse, et ses yeux limpides continuaient à pleurer. Un matin, à Benares, Kali, ivre, grimaçant de fatigue, sortit de la rue des courtisanes. Dans la campagne, un idiot qui bavait tranquillement, assis au bord d'un tas de fumier, se leva sur son passage et se mit à courir derrière elle. Déjà, il n'était plus séparé de la déesse que par la longueur de son ombre. Kali ralentit son pas et laissa l'homme l'approcher. Quand il l'eut quittée, elle reprit son chemin vers une ville inconnue. Un enfant lui demanda l'aumône. Elle ne l'avertit pas qu'un serpent prêt à frapper se dressait entre deux pierres. Une fureur l'avait prise contre tout ce qui vit, en même temps qu'un désir d'en augmenter la substance, d'anéantir les créatures tout en s'en assouvissant. On la rencontrait accroupie, aux abords des cimetières. Sa bouche craquait des ossements comme la gueule des lionnes. Elle tua comme l'insecte femelle qui dévore ses mâles. Elle écrasa les êtres qu'elle enfantait comme une lait qui se retourne sur sa portée. Ceux qu'elle exterminait, elle les achevait en dansant sur eux. Les lèvres maculées de sang exhalaient une fade odeur des boucheries. Mais ses embrassements consolaient ses victimes et la chaleur de sa poitrine faisait oublier tous les maux. À l'orée d'une forêt, Kali fit la rencontre du sage. Il était assis, les jambes croisées, les paumes posées l'une sur l'autre, et son corps décharné était sec comme du bois préparé pour le bûcher. Personne n'aurait pu dire s'il était très jeune ou très vieux. Ses yeux, qui voyaient tout, étaient à peine visibles sous ses paupières baissées. La lumière autour de lui se disposait en auréole, et Kali sentit monter des profondeurs d'elle-même le pressentiment du grand repos définitif, arrêt des mondes, délivrance des êtres, jour de béatitude où la vie et la mort seront également inutiles, âge où tout se résorbe en rien. Comme si ce pur néant qu'elle venait de concevoir tressaillait en elle à la façon d'un futur enfant. Le maître de la grande compassion leva la main pour bénir cette passante. Ma tête très pure a été soudée à l'infamie, dit-elle. Je veux et je ne veux pas, souffre et pourtant jouis. Et horreur de vivre et peur de mourir, Nous sommes tous incomplets, dit le sage. Nous sommes tous partagés, fragments, ombres, fantômes sans consistance. Nous avons tous cru pleurer et cru jouir depuis des séquelles de siècles. J'ai été déesse au ciel d'Indra, dit la courtisane, et tu n'étais pas plus libre de l'enchaînement des choses et ton corps de diamant pas plus à l'abri des malheurs que ton corps de boue et de chair. Peut-être, femme sans bonheur, errant déshonorée sur les routes, es-tu plus près d'accéder à ce qui est sans forme ? Je suis lasse, gémit la déesse. Alors, touchant du bout des doigts les tresses noires et souillées de cendres, le désir t'a appris l'inanité du désir, dit-il. Le regret t'enseigne l'inutilité du regretter. Prends patience aux erreurs dont nous sommes tous une part. Ô imparfaite, grâce à qui la perfection prend conscience d'elle-même. Ô fureur, qui n'est pas nécessairement immortel. Marguerite Yourcenar, Kali décapité, dans les Nouvelles Orientales. Je vous livre les questions que je me pose à la lecture de ce conte et à propos de la déesse Kali. Qu'est-ce que le mal ? Quelle est l'origine du mal ? Vient-il d'une tendance de l'âme humaine, d'une pulsion profonde, d'un désir de s'abîmer, de sombrer dans l'abîme et d'en explorer les limites comme pour éprouver sa force vitale ? Ou alors vient-il de la douleur et de la violence que l'on inflige à autrui, par haine ou par jalousie, et que l'autre va reproduire à son tour ? Mais plus encore, pourquoi le mal nous fascine-t-il ? Pourquoi nous intéressons-nous aux faits divers sordides, voire aux crimes de psychopathes meurtriers dont nous suivons les méfaits ? Est-ce une façon pour nous de sonder cet abîme sombre en nous à travers les crimes de l'autre, de vivre une expérience morbide de pensée par procuration, et ainsi de nous purger de la peur de façon cathartique, comme pensait Aristote ? Est-ce une pulsion de mort qui s'exprime en nous et trouve un écho dans les crimes d'autrui, et trouve une forme sublimée, socialement acceptable de se manifester, comme pensait Freud ? Kali ne connaît pas sa perfection, sa beauté et sa pureté. Or, la mésestime de soi peut conduire à s'abîmer, à se corrompre. Kali est pure et impure, est belle et laide, douce et cruelle. Elle est la contradiction par excellence. Elle est notre contradiction. Elle représente la part destructrice de Shiva dans la religion hindoue. Il est en effet tentant de faire table rase du passé, de laisser brûler le vieux monde pour en bâtir un neuf. Mais sommes-nous prêts à en payer le prix ? La violence est nécessaire, il faut la regarder en face. C'est ce que nous enseigne Kali. Nous portons toutes et tous des ombres qui se meuvent en nous comme des fantômes, qui hantent nos rêves et traversent nos pensées inconscientes. Kali nous invite à voir ces ombres en nous, à ne pas en avoir peur, à accepter ce sombre passager qui nous accompagne dans la lumière. Enfin, Kali aime tout le monde, même si elle tue tout le monde. Elle ne se refuse à personne, elle ne refuse ses faveurs à personne, même aux parias et aux déclassés de la société. Sa générosité est illimitée, sans discrimination aucune. Elle donne la joie de l'amour tout en donnant la mort. Elle donne la mort dans la petite mort. Le philosophe Friedrich Nietzsche disait « Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi. » Merci de votre écoute. À très bientôt.
www.radio-g.fr.
Après ce moment sombre, Kali décapité, légèrement death metal, je vous avais prévenu, je vous propose maintenant un petit moment de détente, de pure délice. Je vous conseille de vous installer tranquillement et de monter le son. Vous allez avoir dans les oreilles Al Green, Simply Beautiful. Enjoy.
I gave you my love, I tell you what I do, I'd expect a whole lot of love out of you, you got to be good to me. Do
What about the way you love me? And the way you squeeze me? Yeah, yeah, it's simply beautiful. Yeah, yeah, beautiful. Yeah, when you get right down to it. I could say about you, girl. I could say that I really,
really. S'il vous plaît.
Oui.
Pas content.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une décision qu'a pris Disney et qui risque de mettre nos cinémas, quand ils pourront réouvrir, dans une situation plutôt délicate. En effet, un film qui devait sortir au cinéma passait d'abord dans les salles. Au bout d'un certain temps, on pouvait le retrouver en DVD ou en Blu-ray. Et ensuite, on avait la possibilité de le retrouver sur des plateformes ou sur des chaînes, cryptées ou non d'ailleurs. Évidemment, cette année, en raison du Covid et des salles de cinéma qui étaient fermées, on a pu voir des films arriver directement sur les plateformes. Donc Disney a essayé de proposer à travers sa plateforme un ensemble de films, en l'occurrence par exemple Mulan, qui normalement devait se diriger vers les salles de cinéma. Il y a eu aussi un deuxième film d'animation des studios Pixar, Soul, qui est directement passé sur la plateforme. Mais la décision qu'a pris Disney cette année est que dans l'avenir, une partie des films, 50%, y compris dans les grosses productions, seront déposés en même temps dans les salles de cinéma et sur la plateforme. Il est évident qu'une partie du public va continuer à aller dans les salles de cinéma pour avoir ce cadre privilégié pour découvrir un film. Mais une autre partie du public, eux, pour des problèmes d'argent ou pour des problèmes de facilité, vont commencer à prendre le réflexe de découvrir les films à travers leur télévision. D'ailleurs, dans cette logique, on commence à avoir des écrans de télévision qui commencent à devenir énormes et par rapport au recul qu'on peut avoir avec son canapé, donne un peu l'impression du cinéma. Alors ça va évidemment poser un souci. Ce que regrettait Spielberg, c'est que le cinéma risque, à très court terme d'ailleurs, de devenir un lieu pour des initiés ou pour une certaine classe sociale, perdant ainsi son côté très populaire. De nouveaux réalisateurs tirent désormais le signal d'alarme. C'est le cas en l'occurrence de Christopher Nolan, qui s'inquiète du mariage entre la Warner Bros. Et HBO Max, qui est une nouvelle plateforme, et qui signalait que certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des plus grandes stars du cinéma se sont couchés la veille en pensant qu'ils travaillaient travaillaient pour le plus grand studio de cinéma. En l'occurrence, ils parlent de Warner Bros. Et ils se sont réveillés en découvrant qu'ils travaillaient pour le pire service de streaming. Il y a, à mon avis, aussi une analogie avec le monde de la musique. Il y a quelques années, on doutait que les gens iraient sur Internet pour récupérer de la musique, en étant persuadés qu'ils continueraient à acheter des supports. Ça a eu évidemment un impact important sur la production musicale et sur le choix proposé, puisque les majors préféraient investir sur des albums d'artistes déjà connus, puisqu'ils avaient déjà leur public. Ça a été évidemment au détriment de la découverte de nouveaux artistes, en espérant que ce phénomène ne se reproduise pas avec le cinéma. Affaire à suivre donc, et soyons vigilants, vérifions bien que quand les cinémas rouvrent, ils restent encore le lieu privilégié de découverte des nouveaux films. Au revoir.
Hey les bons geeks, ce soir j'avais envie de vous parler du dernier numéro de la revue cinéma Première. En effet, son numéro hors série numéro 14 de janvier-février 2021 est un spécial plateforme. Pour bien choisir son abonnement, la rédaction de Première a passé au crible 15 plateformes pour nous présenter les films et séries à ne pas louper en 2021. Avant de vous parler plus en détail des tops qui ont attiré mon attention, je vous propose de faire un focus, justement sur le focus cinéphile que vous pouvez retrouver à la fin de ce numéro hors série. Pour les amateurs de classiques, pour les vrais cinéphiles, plusieurs plateformes existent. Il y a bien sûr les incontournables, Mubi, la Cinéthèque et Filmo TV, qui sont présentés en détail dans ce guide. Pages 76 à 98 pour être très précise. Mais la rédaction de Première attire notre attention sur 4 offres hybrides qui méritent le coup d'œil. Il y a tout d'abord, j'ouvre les guillemets, la plus nostalgique, Madeleine, qui est en fait une référence à la Madeleine de Proust et qui offre des vidéos à la demande par abonnement de l'Institut National de l'Audiovisuel. Lancée en mars dernier, elle propose des documents éditorialisés via des dossiers thématiques en fonction de l'actu. Il y a près de 14 000 contenus, des fictions, des séries, des documentaires, qui couvrent 50 ans de cinéma, sans oublier des émissions mythiques telles Apostrophe ou Bouillon de Culture. On peut notamment y retrouver des classiques comme Cléo de 5 à 7 ou Hiroshima Mon Amour. Donc ça fonctionne par abonnement, un abonnement de 2,99€ par mois et c'est sans engagement. On retrouve aussi la plus cinéphile selon Première qui s'appelle Henri. Au moment du premier confinement, la Cinéthèque française de Paris avait lancé sa plateforme baptisée Henri. Elle mettait à disposition des internautes chaque soir un film de sa collection. On y trouve des courts-métrages d'Abel Gance, une conférence d'Orson Welles ou des films muets de toute première importance. Tout y est gratuit. Nous avons ensuite la plus tendance, MK2 Curiosity. C'est effectivement pendant aussi le premier confinement que la plateforme de VOD MK2 Curiosity est apparue. Et elle a fait son comeback fin novembre 2020 avec un concept alléchant. Chaque semaine, 5 films en ligne gratuitement. Au terme de ces 7 jours, les films sont disponibles à la location. Pensée comme une alternative aux géants du streaming, toutes les œuvres proposées bénéficient d'un accompagnement éditorial. La programmation y est variée et on peut y croiser Plaisir d'amour ou encore Chocolat. Et en termes de réalisateurs, Hong Sang-soo ou Claude Chabrol. Donc les films sont gratuits, donc il n'y a pas d'abonnement. Et puis après, c'est des films à la location, passé la première semaine. Et on retrouve enfin la plus cinéma, selon Première, qui s'appelle La Toile. Et c'est un service de VOD intrinsèquement lié aux salles. Elle a été lancée en 2017 et met à disposition du public une sélection de films effectués en collaboration avec les cinémas de proximité. Avec plusieurs centaines de titres répertoriés, on a une location de films à l'unité. C'est donc à vous de choisir, gratuit, avec des abonnements mensuels ou de la location, vous allez pouvoir faire ainsi le plein de classiques.
Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Doudou doudou, 6 soit-il. Tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Au plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script. Lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film sur la bande-son.
J'en reviens maintenant à mes tops. Et oui, j'avoue que j'aime ces classements parce qu'ils me permettent de faire le tri, de m'aider à sélectionner, car j'ai parfois bien du mal à faire des choix de films le soir. Je peux passer des heures à regarder le catalogue proposé par une plateforme avant de prendre une décision. Suis-je la seule dans ce cas ? Donc ce numéro de première va vous permettre de cibler quelques séries et films à voir dans les mois à venir. Les chefs-d'œuvre de nombreux réalisateurs, jeunes cinéastes comme Andrew Patterson et les frères Safdie, des maîtres tels Martin Scorsese ou David Fincher et les frères Coen, se retrouvent sur ces plateformes. Première à sélectionner les 20 meilleurs films originaux à voir en streaming. Je vous propose d'aller directement aux 3 premiers. Les plus curieux sauront où trouver les 17 autres. À la 3e place, nous retrouvons le film Roma d'Alfonso Cuarón, qui est sorti en 2018 sur NX. Donc Cuarón revient au Mexique pour une évocation de sa jeunesse dans le quartier Roma de Mexico. Le film, tourné en noir et blanc et en scope, est une ode magnifique à l'alliance de deux femmes, Sofia la bourgeoise et Cléo la domestique, autant qu'une tragédie sur la fatalité sociale. Le film a été récompensé par le Lion d'Or au Festival de Venise, mais aussi par l'Oscar du meilleur réalisateur. Son making-of, visible aussi sur la plateforme, vaut a priori le détour. À la seconde place, on retrouve Uncut Gems de Benny et Joff Sadi, qui a été diffusé sur NX en 2020. En montrant ses souillures, Big Apple n'a jamais paru aussi photogénique. Les frères Safdie revisitent le New York, interlope faisant feu de tout bois. La caméra, mobile et excitée, coince sans arrêt dans les cordes, Adam Sandler qui résiste. Esquive, plus qu'il ne donne des coups. Uncut Gems, sous ses allures de diamant, oublié de nouvelle Hollywood, tient paradoxalement sa fraîcheur de son électricité foudroyante. On tombe, on se relève, on se fatigue, on se cogne, et quand le héros prend enfin le temps de s'asseoir, c'est dans un placard à balai. Un an après, on est toujours sonné. Et enfin, à la première place de ce top 20, proposé par Première, nous retrouvons le film de Martin Scorsese, paru également sur NX en 2019. Bizarrement, dans ce top, nous avons que du NX. Donc nous avons The Irishman, donc de Scorsese. Alors que de nombreux cinéphiles soudain devenus experts en effets spéciaux se moquaient du rajeunissement plus ou moins foireux des visages de Robert De Niro et de Joe Pesci à l'écran, Scorsese délivrait une fresque crépusculaire terriblement émouvante en confiant autour de la table les fantômes de son cinéma et de l'Amérique des 50s. Le nouveau venu, Al Pacino, permanente ad hoc, réveillait à lui seul les morts. Pourtant, c'est bien Hoffa qui finira sur les carreaux lors d'une séquence qui restera dans les annales du cinéma. Selon Première, il s'agit donc du premier chef-d'œuvre 100% NX. Rien que ça. Du côté série, on retrouve dans le top 20 beaucoup de séries que nous avons eu le plaisir de chroniquer dans Bangeek Mafia. Le jeu de la dame, Narcos, Stranger Things, The Haunting of Hill House, et j'en passe. À la troisième place de ce top, on retrouve The Boys, qui a été diffusé à partir de 2019 sur Amazon Prime Video. A priori, la saison 2 est une nouvelle claque visuelle et narrative. À la seconde place, nous retrouvons Mindhunter, série dont nous avait beaucoup parlé déjà Seb, et donc série forcément de David Fincher, qui remonte aux origines des techniques du profilage du FBI. Donc David Fincher est à la production et à la réalisation de plusieurs de ses épisodes, écrit d'une main de maître, porté par des scènes d'interrogatoire magistrales avec des morceaux de cinéma comme les plateformes n'en avaient jamais, jusque-là jamais produit. Mindhunter a changé les paradigmes sériels. Tout à la fois enquête clinique, série dossier sur les serial killers et dissection de l'âme d'un flic paumé, un peu comme Seven, la première saison était un must absolu. Pour finir, et là, ça tombe bien puisque je viens de terminer cette quatrième saison de The Crown, série qui a débuté en 2016 sur NX, et pour moi c'est un vrai triomphe. Dès son entrée en scène sur la plateforme, elle a été intronisée joyau de Netflix, à juste titre. La royale série imaginée par Peter Morgan avec son budget colossal, en effet 130 millions d'euros pour la première saison, a fait montre d'une qualité cinématographique la plaçant au-dessus de la masse des séries qui sortent chaque année. Dans la foulée d'une saison 4 passionnante, le joyau brille encore un peu plus. The Crown justifie chaque dollar dépensé. C'est filmé de façon luxuriante, dans des décors à couper le souffle. Ça s'appuie sur une écriture qui jongle avec délices entre faits et fiction, et elle s'impose ainsi comme une jouissive reconstitution historique qui continue d'impressionner malgré les différents changements de casting. Après avoir révélé Claire Foy dans la peau de la jeune Elisabeth II, c'est Olivia Colman qui a brillamment pris place sous la couronne. Elle laissera le pouvoir à Imelda Staunton en 2022 et 2023 pour ce qui sera, malheureusement, les deux dernières saisons de la série. Donc c'est un vrai chef-d'œuvre du petit écran dont il faudra profiter jusqu'au dernier éclat. J'en ai terminé sur ce numéro hors série. Si vous en voulez encore, eh ben je vous conseille d'aller en kiosque et donc de consulter ce numéro 14 de janvier 2021.
Radio G 101.5 FM.